célébrer le printemps en poésie.
Oui, bonjour. Bonjour. James Fontaine et Harold Ivar sont avec nous ce matin.
Bonjour.
Vous êtes ici pour nous parler d'une représentation qui a lieu au Théâtre de la Fourmi ce week-end. Mais d'abord, qui êtes-vous ?
Alors, je m'appelle James Fontaine, j'écris de la poésie depuis quelques années, et puis jusqu'ici je jouais avec mes mots, et avec des musiciens du groupe juste avant que les mots sonnent. Et puis j'ai rencontré Harold, avec qui on a monté un projet où on a voulu jouer les grands, c'est-à-dire de jouer les grands poètes connus comme Rimbaud, Malarbé, Antonin Artaud, Jacques Prévert, enfin un voyage poétique qui part du 19e, qui passe par le 20e jusqu'au 21e, voilà.
Donc vous, c'est la voix, Harold, c'est la musique ?
Oui, tout à fait, alors moi j'ai tendance plutôt à être un improvisateur d'abord, et c'est le travail qu'on a fait avec James, c'est d'imaginer comment on pourrait exprimer une poésie musicale. Et ça s'est fait vraiment dans l'improvisation, et en général, le premier jet est toujours le bon. Et comme c'était bien parti, on a dit, on va continuer. Quoi.
Alors, avant de discuter de l'événement qui a lieu ce week-end, on va écouter un extrait de vos prestations.
Oui, on a ramené un extrait des Enfants qui s'aiment. Donc, c'est un poème de Jacques Prévert qui est très, très connu. Et Harold a proposé une musique et moi je propose une ligne de chant dessus, puisque sur ces textes quelquefois je chante, quelquefois je slame, je peux aussi déclamer, je peux aussi l'interpréter de manière plus jouée, quoi, plus théâtrale, on va dire, en tout cas plus vivante, quoi. L'objectif, c'est de rendre vivants des textes qui ont une portée universelle, de toute façon, en tout cas le message est universel, quoi.
Donc nous allons voir comment vous animez la poésie. Comment faites-vous pour allier la voix et la musique ? Est-ce que c'est pas compliqué ?
Non, c'est pas compliqué parce qu'on est musicien. Moi, avec le groupe juste avant que les mots sonnent, on a une démarche très très rock en fait. C'est-à-dire qu'on cherche une ligne de chant sur une ligne d'accord. Voilà. C'est-à-dire que par exemple, si on fait une suite d'accords piano ou à la guitare. À un moment donné, vous allez envie de poser votre voix naturellement en chantant une mélodie qui n'est pas forcément celle qui est techniquement la plus parfaite, mais la plus adaptée en tout cas dans le moment de la vibration du moment. Quoi. Donc c'est pas une démarche de musique classique, c'est plus une démarche rock en fait, même si c'est pas du rock and roll dans ce qu'on ressent. En tout cas, il y a on se laisse partir dedans dans quelque chose d'un peu plus spontané. on trouve les harmoniques. Qu'est-ce qui va nous harmoniser tous les deux? Donc, généralement, c'est ce qu'on fait, par exemple, quand vous lisez un texte et puis qu'on met une musique en même temps, il y a quelquefois le son de la voix qui vient bien s'entremêler avec la musique.
Donc, si on veut venir vous découvrir ou vous écouter, c'est ce week-end au Théâtre de la Fourmi?
Oui, Julie Dourdi du Théâtre La Fourmi nous a fait venir pour 2 jours, donc vendredi 17 mars à 20h30 et puis le lendemain, samedi 18 mars à 20h30, on propose le spectacle avec donc Erol Divar à la guitare et puis sans oublier Christophe Becro, notre ingé son fabuleux qui fait partie de l'équipe et qui, sans lui, on n'aurait pas un rendu musical comme on l'a, quoi.
C'est dans le cadre du Printemps des Poètes.
Oui.
Le lien avec l'Afrique?
Alors, le lien avec l'Afrique, c'est le Printemps des Poètes. Cette année, ils ont intitulé ça « Les Afriques ». Voilà, en disant que voilà, l'Afrique a apporté énormément à la littérature et puis que c'était juste enfin de parler de l'Afrique. Bon, évidemment que c'est juste puisque de toute façon, je vois pas ce qui empêchera un Africain d'écrire et de chanter des textes. Bon, enfin bref, après ça c'est une question de regard sur le monde, de prisme. Et donc nous on adore la poésie qui peut toucher aux Afriques et on a choisi des textes d'Aimé Césaire, qui est un grand poète, engagé politiquement aussi. C'est quand même un des rares poètes qui est connu en tant que poète, mais qui a été aussi homme politique, dans le sens où il s'intéressait à la vie de la cité et non pas au pognon qu'il pouvait gagner, quoi.
Humaniste.
Donc, un humaniste, un vrai. Il montrait qu'il pouvait, servir à la communauté, parce qu'un poète, quand il y a des gros problèmes dans un pays, les premiers qu'on fout en tôle, c'est les poètes. Alors que d'habitude, on ne s'y intéresse pas aux poètes. Donc ça veut dire quand même quelque part qu'il y a un langage messager très puissant, quoi. Voilà.
On parlait tout à l'heure hors antenne, c'est quoi qui vous a plu chez Césaire?
Ah, Césaire, moi, Erol nous dira ce qui lui a plu chez Césaire. Moi, ce qui m'a plu chez Césaire, c'est déjà l'homme, l'engagement politique de l'homme dont je viens de parler, donc je ne vais pas me réétaler là-dessus, mais enfin, de dire qu'il y a des gens de valeur qui écrivent de la poésie, qui peuvent être aussi des hommes politiques, puisqu'il a été le maire de la grosse ville martiniquaise, là.
Fort de France,
qu'il a été aussi fondateur d'un parti politique tout en sortant du Parti communiste, et de créer son propre parti pour le bien de toute une communauté. Je pense que c'est... Voilà, on n'en parle pas trop. Hein. On pourrait lui rendre hommage même à différents titres. Et en même temps, c'est un poète parce que je pense que pour s'occuper des autres, il faut être visionnaire. Bon, voilà. Et lui, là, en plus, d'un point de vue littéraire, il a amené quelque chose d'énorme. C'est qu'il a une écriture qui crée un lien énorme entre l'écriture occidentale et l'écriture africaine dont il est issu, puisque c'est un descendant d'esclaves, évidemment. Puisque nous, les hommes blancs, on a quand même fait quand même ce truc terrible, mais en même temps complètement assumé. C'est-à-dire que dans son écriture, il y a quelque chose qui résonne comme un tambour chamanique, qui vient frotter les sons des mots et tout. En plus, il écrit sans ponctuation. C'est de la poésie de connexion, un petit peu, qu'on peut retrouver chez des chanteurs poètes modernes, comme Jim Morrison, par exemple, où il envoie des images incantatoires, voilà, qu'on peut retrouver chez d'autres artistes. Là, il a vraiment... C'est un appel... moi, quand je lis le texte et que Erol m'accompagne, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur, quoi. Il y a des vibrations. C'est pas simplement un truc... c'est pas un délire. C'est-à-dire que ces mots sont touchants. Des fois, on comprend pas forcément le sens littéral du texte parce que... c'est pas « Il était une fois le petit chaperon rouge qui se promenait avec le méchant Macron, par exemple. » Une nouvelle histoire horrible pour les enfants. Non, c'est ça part plus dans l'univers de la galaxie, des puissances invisibles, des forces de la nature, des forces de l'univers, des forces de ce qui nous donne de l'amour, qui nous donne vraiment... De la présence dans le moment présent, d'être existant, ancré, quoi. pas simplement des bordis qui racontent n'importe quoi, n'importe qui, n'importe comment, et qui fait de la vie un terrain de guerre, quoi. C'est l'amour qui le pousse.
Oui, on n'est plus dans une expression mentale et intellectuelle. On est dans l'expression d'une vibration, comme tu dis, d'une force qui passe à travers nous, qu'on ne comprend pas avec les mots, mais qu'on ressent. Moi, en tant que béotien de la poésie depuis 64 ans, et ayant découvert depuis un an, grâce à James Fontaine, le sens réel de la poésie, sa beauté, la première fois que j'ai lu le texte d'Aimé Césaire, j'étais choqué. J'ai dit, mais qui c'est qui a recopié ce texte? Il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de point, il n'y a rien. En fait, ce n'était pas une erreur. Et ça, c'est fantastique. Ça, c'est... Tout d'un coup, je découvre que les mots, c'est plus que une simple expression orale d'un sens quelconque qu'on peut exprimer avec des interprétations, quoi que ce soit. Mais c'est de la beauté pure qui coule, c'est de l'amour, c'est des grandes valeurs universelles qui s'expriment.
Et pour arriver à le mettre à l'oral, vu qu'il n'y a pas de ponctuation, c'est vraiment la vibration.
Oui, alors en fait, oui, c'est parce qu'il a fait certainement une recherche d'écriture, et puis il a trouvé le truc pour que ça ne perde pas en sens. C'est-à-dire qu'une fois qu'on rentre dans le poème, c'est comme quand on écoute une phrase musicale. À un moment donné, ça commence à tel endroit et on finit par comprendre la structure de cette phrase. Et là, c'est exactement pareil. Alors effectivement, c'est quelque chose qui nous emmène dans notre imaginaire ou dans quelque chose qui n'est pas forcément la voiture rouge égarée juste à côté, comme je disais tout à l'heure, mais c'est plus une poésie de connexion quand on est un petit peu avec soi-même, à 2h du matin en train de regarder les étoiles, puis on a tout un tas d'idées qui nous passent par la tête à tout le monde. Tout le monde a fait cette expérience-là. On a l'impression qu'Aimé Césaire, il a réussi à retranscrire ça par les mots, quoi. Et c'est des mots qui sont puissants parce que même quand on n'est pas forcément initié à ce style de poésie, lorsqu'on lit la suite de mots avec une certaine rythmique et une certaine métrique musicale, il y a quelque chose qui se passe, il y a une vibration vraiment comme un tambour qu'on écoute, ou alors quelquefois c'est quelque chose de plus chuchoté. En tout cas, c'est quelque chose de vivant, quoi. On a l'impression que son âme est là, qui est bienveillante.
Vous avez donc choisi différents poètes. À travers cette échappée poétique et musicale, quels vont être les thèmes abordés ?
Ah, bah le thème, les thèmes, c'est toujours les mêmes thèmes. Alors, c'est la vie, quoi. C'est le regard sur la vie. C'est vraiment ça. C'est le prisme que les poètes ont sur la vie, avec évidemment les particularités de chacun. Bon, par exemple, au XIXe siècle, on a choisi Baudelaire et Rimbaud essentiellement parce que, et puis Mallarmé aussi, mais surtout Baudelaire, Rimbaud dans un premier temps parce que on a choisi la Charogne de Baudelaire. On a choisi Frère Milotus de Rimbaud, qui sont des poèmes absolument subversifs pour l'époque, et encore maintenant d'ailleurs, qui sont encore un peu dérangeants à la lecture, parce que ce sont des gens qui ont bousculé les codes et qui ont ouvert un bon nombre de poètes rockers se sont inspirés de poètes du XIXe siècle, et notamment du comte de Lautréamont, pour le côté pamphlétaire, le côté vindicatif, le côté rageur. Beaucoup se sont inspirés de ces gens. Ils ont vraiment bousculé les codes. Ils ont fait éclater un monde catho, cuculapraline, qu'il fallait de toute façon, les gens aspiraient une liberté. C'était même, fallait que ça bouillonne, que ça sorte des rangs, quoi. Et puis la prise de conscience sur la société. Rimbaud, par exemple, quand il écrit les cinq petites misères qui sont en train de faire la manche, ça le révolte de voir qu'il y a un monde qui crève pendant que les autres sont dans l'opulence, et aujourd'hui ça n'a pas changé. Donc ce sont toujours des textes qui montrent que déjà il y a des gens qui avaient un regard sur la vie, sur des choses concrètes, et puis sur des choses. Et tu sais pas, quand t'arrives pas à résoudre tel problème, t'as aussi la possibilité de communiquer. Regarde, tous les matins, pour quiconque, t'as le ciel pour toi, t'as l'air, t'as la mer, des choses qui ne répondent pas à une espèce de domination humaine, de contrôle humain. C'est quelque chose qu'on a tous en nous, quelque chose qu'on a dans le cœur, quoi. Et, Et c'est ça que les poètes nous retraduisent dans leurs mots. Donc le thème, c'est la vie, l'amour, la mort, la dérision, la provocation. Par exemple, Arthur Rimbaud fait un texte Frère Milotus sur le trou du cul d'un moine, quoi. C'est incroyable de faire ça, quand même.
Alors, qu'est-ce que vous voulez transmettre? Quel est le message ou les émotions que vous voulez transmettre?
C'est un partage. C'est un partage, une rencontre. La rencontre avec Hérold, c'est un partage, c'était une volonté de partage, et puis c'est une volonté aussi de désélitiser la poésie, qui est présentée souvent comme quelque chose de rébarbatif, d'apprentissage par cœur, à l'école, avec des fois des conditions qui ne sont pas très chouettes pour réciter les poèmes. Non, là, on a vraiment envie de partager ça, de dire, voilà, allez lire la poésie, parce qu'en fait, dans la poésie, il y a plein de choses intéressantes, il y a plein de choses qui nous renseignent sur les trucs qui ne vont pas dans ce monde, ou alors des trucs qui peuvent nous faire tout simplement du bien, rien qu'à les entendre, à les écouter. Et puis ça peut pousser aussi à révéler son propre poème intérieur qu'on a tous à l'intérieur de nous, puisque des moments poétiques, des événements poétiques, on en vit tous les jours. Alors, notamment quand, je sais pas, à un moment donné, on peut porter son regard sur quelque chose qui nous émeut, et voilà, on est dans la poésie, là, du coup. C'est ça, c'est le partage.
Moi, j'ai plus le choix. Je suis tout à fait d'accord avec James. J'ajouterais simplement que, bon... Le partage, oui, il y a un partage entre nous, il y a une espèce de chose magique qui se passe, qui se passe des mots pour qu'on puisse s'exprimer ensemble, harmonieusement, et on essaie de le transmettre au public, et que ce public puisse le transmettre après à d'autres. Je crois que c'est ça le plus important, c'est qu'on réalise qu'on est sur une terre, on est sur un bateau, la terre c'est un grand bateau, mais c'est un bateau, et on est tous là-dessus, et puis si chacun veut faire sa loi, ça va pas marcher. Il faut écouter un peu les autres, il faut donner un petit peu aussi de soi, et je crois que le bateau fonctionnera mieux, quoi. Et on risque de pas couler, parce que là on est parti, hein, pour... Voilà.
Merci.
Ouais, une volonté purement humaine, et puis une volonté aussi artistique. On veut ravir le cœur du public, hein. On veut le faire sans prétention, on veut bien le faire, et ça fait plusieurs mois qu'on y travaille, presque 9 mois, c'est vraiment une grossesse qui va donner un bébé.
C'est un accouchement vendredi, je crois.
C'est d'ailleurs vendredi 17 et samedi 18 à 20h30 que vous avez donné rendez-vous au théâtre La Fourmi.
À Manosque, ouais.
À Manosque pour L'Empreinte. Un dernier petit mot sur ce nom?
Oui, l'empreinte, oui, c'est un mot qu'on a inventé, puisque la poésie nous permet d'inventer aussi des mots, ce qui est
alors,
bien.
Pour les auditeurs, il faut peut-être dire que ça s'écrit E-M-P-R-U-N-T-E.
Oui, voilà, c'est ça, d'emprunter, voilà, c'est ça. Donc, voilà, on a emprunté des textes aux grands, et donc James et Hérold jouent les grands, quoi. Voilà.
Ben, merci à vous. On vous souhaite un bon moment pour ce week-end.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci.